Laissez-vous tenter dans RTL Matin
avec Vincent Parisot.
Oui, laissez-vous tenter, notamment ce matin, par un très bel, je vais dire même superbe album, superbe livre. Ça s'intitule L'herbier des fées. Bonjour Stéphane de Pasquale.
Bonjour Vincent, heureusement que vous êtes là parce que j'ai écouté ce reportage absolument épouvantable. Ouais. Comme quoi nous partions en quenelle à partir de 45 ans.
Oh là là, c'était...
Alors écoutez,
ça m'a fait mal, hein.
La bonne nouvelle, c'est que votre visage me dit quelque chose. Ouais. En revanche, je ne sais absolument pas pourquoi je suis là.
Mais si, vous allez nous parler d'un beau livre pour les enfants.
Ah, c'est...
Voilà, ah, c'est ça,
l'herbier,
ça vous revient.
L'herbier des fées, c'est la plus belle chose que j'ai lue cette année, ça me revient.
Ouais. Non mais c'est vrai, c'était sympa ce reportage, vous l'avez entendu, à partir de 45 ans.
Oui, surtout quand on a 57, on sent quand même top fraîche.
J'en connais, on va pas se rendre compte de la différence. Hein.
Alors, Stephen Bellery, lui, il a moins de 45 ans, oui. Donc pour lui, c'est nickel. Et il va pourtant nous parler des années 80.
Oui, bonjour Vincent, bonjour à tous. Vous allez en entendre parler. Ce sera l'un des films de l'été star des années 80, c'est son nom. C'est l'histoire de deux producteurs qui ont l'idée de faire remonter sur scène ces chanteurs oubliés. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Eh bien, j'étais sur le tournage du film Reportage en musique à suivre.
Alors, je ne vais pas lui demander son âge. Charlotte Latour, je sais
ça
me tenir.
Se fait pas.
Bonjour Charlotte. Mais en revanche, je vais vous demander de quoi vous allez nous parler.
Eh bien aujourd'hui, moi je vous emmène en 1672. Oula. Alors là, on n'a pas intérêt à avoir un trou de mémoire. Hein, à la découverte du plus vieil alto du monde. L'heureux musicien qui a le privilège de jouer dessus s'appelle Antoine Tamestit et il m'a ouvert la porte de chez lui.
Un alto, c'est un violon.
C'est un gros violon.
Un gros violon.
C'est un peu comme un violon. Voilà. Et Isabelle Morini-Bosque.
Je vous rappelle cette phrase d'Arédie, elle demandait « Né-le », elle répondait « Oui ».
Oui, voilà.
Ben, moi, c'est pareil.
Eh bien, on vous l'accorde. De quoi vous allez nous parler ?
D'un excellent polar ce soir sur la 2 avec Patrick Chesnay et demain d'un sosie en autre sosie qui m'a fait rire parce qu'il y a les frères Bogdanov, faut que je le signale à Laurent Gérard.
Bien, alors, avant tout cela, et nous vous complimentons évidemment, donc avant tout cela, de la musique avec Anthony Martin, depuis tôt ce matin, on découvre sur RTL le tout premier extrait de la nouvelle chanson des Enfoirés. On en a diffusé des extraits notamment à 8h et à 7h. Les concerts 2012 au profit des restos auront lieu du 1er au 6 février.
Oui, et c'est à Lyon que se tiendra le bal des Enfoirés. C'est le nom du nouveau spectacle. Et surprise, en 2012, les Enfoirés nous proposent non pas une reprise, mais un titre totalement inédit, écrit et composé sur une proposition du chanteur Grégoire et sous la baguette de Jean-Jacques Goldman. Le morceau s'appelle « Encore un autre hiver ». Les Enfoirés ont choisi de durcir le ton en cette année 2012. Dans cet extrait, c'est Christophe Maé qui ouvre le bal.
Encore un horizon. Jamais rien ne change.
Encore toutes ces enfances
nées du côté pas de chance. Les parents qui démissionnent et les écrans qui fonctionnent.
Encore un autre hiver, et si peu de colère. Les plus fragiles qui cassent, et que veux-tu qu'on y fasse?
Encore un peu d'espoir.
Encore un autre hiver qu'on entendra tout le week-end en avant-première sur notre antenne. C'est donc la nouvelle chanson des Enfoirés 2012, un titre original défendu, vous les avez peut-être reconnus, par Christophe Maé, Amel, Ben Grégoire, Goldman, Benabar, Jennifer, Patrick Bruel et bien sûr les chœurs des Enfoirés. Rendez-vous donc à Lyon du 1er au 6 février avec la quarantaine d'artistes. On connaît déjà le nom de la nouvelle recrue 2012, c'est la gagnante de la dernière édition de l'émission de TF1 Danse avec les stars, Isabelle, c'est la chanteuse Shaim. Oui. Elle l'a annoncé sur son compte Twitter avant-hier. Elle fera partie des Enfoirés.
Eh bien, très bien. Et merci donc de cette exclusivité. Et soyez bien à l'écoute d'RTL tout le week-end. Vous entendrez régulièrement cette nouvelle chanson des Enfoirés. Encore un autre hiver. Alors, Stéphane de Pasquale, avant de perdre définitivement la mémoire, vous avez décidé de gâter les enfants en leur offrant un superbe album édité par un Albin Michel. Et quand je dis superbe, c'est presque un euphémisme. Hein. Le titre, L'herbier des fées, les parents peuvent le lire aux enfants dès l'âge de 5-6 ans, sinon les enfants peuvent le lire, on va dire, dès l'âge de 8-9 ans.
Voilà, tout seul. Écoutez, franchement, c'est tout simplement le plus bel album que j'ai lu de l'année. C'est une merveille. Alors, cet herbier est en fait le journal intime imaginé d'Alexander Bogdanovitch, un éminent botaniste né en 1876 à Saint-Pétersbourg.
C'est un ancêtre des Bogdanov,
non? Oui, c'est le même, c'est le cousin germain par alliance, mais version Ruskov, une enfance obscure, orphelin, des études brillantes, une entrée remarquée à l'université agronomique de Moscou. Ses résultats précoces et exceptionnels intéressent évidemment l'Empire russe et, en premier lieu, un certain Rasputin. Ouais. Et il va tout simplement lui demander une mission relativement simple. « Mon petit coco, tu vas aller trouver et créer un élixir de jeunesse, d'immortalité. »
Vaste programme quand même, parce qu'on a connu des missions un peu plus faciles.
Vous avez, comme vous dites, en tout cas cette mission le mène, lui, dans la forêt de Brocéliande, réputée pour ses légendes, ses druides et autres farfadets. Le botaniste installe son campement de base à Pimpon, un village niché dans la forêt. Il commence par recueillir des plantes inconnues aux vertus médicinales étonnantes, comme la pilulaire, qui dissoute dans l'eau, peut soigner une plaie et la cicatriser en quelques heures. Chaque découverte est consignée dans son carnet de voyage. De superbes dessins avec des annotations accompagnent les croquis et les spécimens séchés sont envoyés par la route d'abord, puis par bateau ensuite à Rasputin.
Vous ne m'avez pas parlé des fées, ça s'appelle l'herbier des fées.
J'y viens. Ah bon. Au fil de ces découvertes, notre Bogdanovitch va se rendre compte que chaque nouvelle plante est habitée par une espèce inconnue. Sa première surprise vient d'une espèce tachetée. Au début, il voit sur le haut de la plante une petite rondeur qu'il prend pour une baie rougeâtre. En examinant la fleur au microscope, il se rend compte que la baie en question bouge. Il l'endort avec de l'éther et là, l'impensable, un petit être d'un centimètre apparaît. Alexander se rend compte que l'être et la plante ne font qu'un. En fait, cette chose vivante, à l'intérieur, se nourrit de la plante. Elle a son propre système respiratoire. Ses organes se rapprochent de l'organisme humain. Enfin, la chose vivante se défend en crachant un venin extrêmement toxique.
Et donc, ce truc vivant, c'est une fée.
Exactement. Le botaniste va se rendre compte que chaque fleur, chaque plante de la forêt de Brocéliande est habitée par des fées. Alors, invisible à l'œil nu, grandissant, évoluant, se métamorphosant à l'abri des regards indiscrets, mieux, chaque plante soigne en fonction de la fée qui vit en elle. Certaines vivent en grappes, collées les unes aux autres. Celles-ci ont des vertus antiseptiques. D'autres, comme l'héléboria, se transforment en elfes. Elles sortent de la plante pour volter. Elles mesurent la taille d'une coccinelle. Elles craignent le soleil. Elles semblent comprendre ce qu'on leur dit. Et elles tournent autour de vous comme une baldrine dans un balai.
Conclusion, même si votre botaniste n'a pas trouvé l'élixir de jouvence, au moins il a fait des découvertes assez incroyables.
Stupéfiantes, oui. Elles signifieraient tout simplement que le fameux chaînon manquant entre le règne végétal et le règne animal existe, une découverte qui remettrait évidemment à plat tous les esprits scientifiques de l'époque. C'est tellement énorme qu'après 2 ans de recherche, Bogdanovitch ne veut ni rentrer à Moscou, ni livrer ses croquis et ses découvertes à Rasputin. Il n'a qu'une obsession en tête, préserver ses fées. Il va demander à sa femme et à sa fille de les rejoindre. Et de plus, alors depuis, plus aucune nouvelle de la famille, de Bogdanovitch, ni l'Empire russe, ni Rasputin, ni nous.
Bon, en tout cas, c'est une belle histoire, c'est un beau cadeau pour les enfants.
Hein. Écoutez, moi j'ai dû relire une quinzaine de fois l'herbier des fées. Je trouve l'histoire d'abord de ce botaniste russe, imaginé par Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, à la fois merveilleuse et mystérieuse, sans oublier les dessins, les aquarelles, les peintures à l'huile de Lacombe, qui sont tout simplement un émerveillement. À chaque relecture, vous retombez sur un détail oublié, une annotation manquée. Au fil des pages, vous allez tomber sur des calques.
Oui, c'est
des,
ça.
Des paravents en forme de feuilles de vigne qui cachent et protègent les fées.
C'est chez Albin Michel.
C'est chez Albin Michel. Et il y a en plus une version numérique. Nous allons vous offrir 20 albums aujourd'hui.
Ah bah dis donc.
Et alors
on est généreux.
Ça, c'était mon coup de baguette de fête.
On vous posera la question dans quelques minutes, peut-être.
Écoutez, j'attends.
Le temps d'avoir dansé et chanté avec les années 80 grâce à Steven Bellery. On vous retrouve dans un instant, donc Stéphane de Pasquale pour la question. Steven, ce sera l'un des films de l'été, star des années 80, réalisé par Frédéric Forestier. C'est lui qui était derrière la caméra pour Astérix aux Jeux Olympiques. Steven, vous avez donc passé une journée sur le tournage. Et je suppose que star des années 80, ça va nous faire danser.
Ah oui, c'est l'histoire de Vincent et Antoine, deux potes, joués par Patrick Timsit et Richard Anconina. Tous les deux fans des années 80, ils dirigent une petite entreprise qui fait tourner des sosies. Tiens, Isabelle. La société fait faillite et en faisant leur carton, ils tombent sur une pile de vieux 45 tours, notamment celui-ci.
Voyage, voyage. Loin
Ces disques poussiéreux vont leur donner une idée géniale. Convaincre ces stars oubliées de remonter sur scène tous ensemble. Alors ça vous rappelle peut-être la vraie tournée Partie 80, débutée en 2006. Bien effectivement, le film s'inspire en partie de la vie de l'un des deux producteurs de cette aventure, Olivier Kéfer.
Et justement, cette tournée, elle était passée au Zénith à Paris, salle où Frédéric Forestier, le réalisateur, alla poser ses caméras.
Oui, fin septembre, pour tourner notamment cette scène.
Vous êtes là ? Bonsoir les amis ! Ça vous dirait que je vous présente ma femme ? C'est pas très sympa, ça ! Ah, c'est pas sympa ! Elle qui se faisait un plaisir de venir nous chanter une chanson. En vrai, Bibiche ! Mesdames et messieurs, Sabrina Salerno !
Ah, vous connaissez peut-être.
Ah, Sabrina, je me souviens surtout de l'image.
Oui.
C'est marrant.
Eh bien, en tout cas, elle apparaît en petite tenue, portée par des danseurs pour son célèbre Boys, Boys, Boys. Ce sera l'un des morceaux live qu'on verra. On suivra la bande en fait des débuts où un directeur de maison de disques leur rigole au nez jusqu'au Stade de France. Après la tournée, Partie 80, ce long métrage à gros budget a des airs de deuxième chance pour le célèbre duo Peter et Sloan qu'on retrouve à l'écran.
La carrière continue différemment.
C'est un complément énorme.
C'est vrai que dans le cours d'une carrière comme ça, de rebondir encore de cette façon-là, c'est extraordinaire. On se découvre et c'est bien agréable. On se dit, finalement, un artiste, il sait faire plein de choses. Par contre, il y a une scène où on chante tous. Et là, on a quand même chanté en tout pendant 8 heures.
Et puis, ça donne toujours besoin de rien, envie de toi. Comme jamais envie de personne.
Alors, comme Peter et Sloan, il y a des dizaines d'artistes qui jouent leur propre rôle dans ce film, Star des années 80.
Lio, Jeanne Masse, François Fellman ou encore Début de soirée apparaîtront dans le film. J'ai bien dit film. Ce sera une pure comédie, pas un concert filmé ou une succession de tubes. Patrick Timsit interprète l'un des deux producteurs.
Si c'était que des chansons sur scène, c'est une émission de télé. Et on la gratoche à la télé. Là, c'est absolument pas ça. C'est vraiment, même quand on les voit, eux, ils sont en train de buffer, on les voit en train de ramer, on les voit dans leurs angoisses, on voit comment on va les chercher, ce qu'ils faisaient depuis 30 ans quand on les avait oubliés, là où ils étaient, en exagérant bien sûr, en trouvant des situations un peu marjoux et tout ça, mais qui pourrait être la réalité.
Alors il y a notamment une scène où les producteurs arrivent chez Jean-Luc Lahaye pour lui proposer de participer à la tournée. Et le chanteur demande pourquoi il y a un S à Star des années 80.
Ah oui, parce que c'est lui la star. Hein,
voilà pour le ton.
J'imagine que c'est quand même une ambiance assez colonie de vacances.
Ah oui, entre les prises, on s'amuse beaucoup. Sloan raconte qu'elle portait des combinaisons intégrales en latex à ses débuts. Jean-Pierre Madère joue aux amuseurs de service et les guitares sont jamais loin.
J'ai questionné tout le monde autour de moi, mais c'est la même réponse à chaque fois. 10 Paru, tu as disparu.
Les chanteurs des années 80 ont fait la fête, les comédiens aussi.
Bah oui, évidemment, et Richard Anconina n'est jamais le dernier. Il interprète le deuxième producteur et c'est la toute première fois qu'il joue avec Patrick Timsit.
Sur les plateaux, j'ai du mal à nous tenir. On s'est tout de suite bien entendu, c'était tout de suite évident, c'était simple. On a peut-être aussi des histoires qui se ressemblent et c'est vrai que je connais son travail, il connaissait le mien, donc ça aidait déjà parce qu'il y a eu un respect mutuel qui s'est installé assez rapidement. Et puis après, la complicité de sale gosse qu'on est tous les deux. Je pense que lui, il a dû être comme moi, un adolescent gentil et espiègle.
Alors voilà, le film s'appelle Star des années 80, réalisé par Frédéric Forestier, sorti en salle le 11 juillet prochain. Et vous allez en entendre parler.
Évidemment qu'on va en entendre parler. Merci beaucoup. Et c'est grâce à vous, notamment, qu'on en a parlé la première fois sur RTL. Steven Bellery, on pose la question.
Volontiers.
Pour gagner l'herbier des fées, ce superbe album aux éditions Albin Michel. Quelle est la question, Stéphane de Pasquale ?
Pour qui travaille notre botaniste russe Alexander Bogdanovich, qui l'a envoyé dans la forêt de Brocéliande ?
Voilà, pour qui travaille monsieur Bogdanovich. On l'a dit, 32-10, 3-2-1-0, vous allez gagner ce magnifique herbier des fées. Vous ferez franchement des petits heureux ou des petites heureuses. Allez, dans un instant sur RTL, vous faites le 32-10 pour jouer. Et dans un instant, on va écouter le plus vieil alto du monde. Si.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Laissez-vous tenter.
Vincent Parisot.
Oui, laissez-vous tenter par Charlotte Latour, mais ça, c'est assez facile. Et surtout par ce qu'elle nous dit ce matin. Bonjour Charlotte. Donc, vous nous parlez du plus vieil alto du monde. Et de celui qu'il joue, il s'appelle Antoine Tamestit.
Mmh.
quelques notes de Bach pour débuter par Antoine Tamestit, donc 32 ans, qui joue effectivement le plus vieil alto au monde. Un alto, pour ceux qui ne verraient pas exactement à quoi ça ressemble, c'est comme un gros violon, ça se tient exactement comme un violon. Et celui-ci donc date de 1672.
Celui qu'on vient d'entendre là.
Exactement, fabriqué par Stradivarius alors qu'il n'avait que 28 ans.
Ça doit coûter deux bras.
À peu près, c'est à peu près ça. En fait, c'est probablement l'alto le plus cher au monde, sauf que c'est impossible de lui attribuer un prix parce qu'il n'y a pas d'autres instruments de la même époque, d'autres altos de cette même époque, donc il n'y a pas vraiment de matière à comparaison et ça n'est pas un instrument qui a une cote. Alors, il appartient quand même à une fondation suisse hein, qui le prête à Antoine Tamestit depuis 4 ans. Et cet Antoine Tamestit m'a confié que c'était assez intimidant pour lui parce qu'il arrive quand même après 340 ans de musicien et de collectionneur.
Ça m'a d'abord impressionné et puis un jour je m'en suis vraiment rendu compte en me baladant au château de Versailles, voyant une grande statue de Louis XIV et les dates de naissance et de mort de Louis XIV sur cette statue et en me disant « Oh là là, mon alto, c'est au plein milieu le sommet du règne de Louis XIV ». C'est juste incroyable. Peut-être que cet alto, il a rencontré Vivaldi, peut-être que c'est fou, ça remonte très très loin. Et on se dit qu'on a dans les mains à la fois un morceau d'histoire, mais un morceau de plusieurs histoires.
Dites-moi, les assureurs, quand même, ils doivent être super exigeants avec un instrument pareil.
Là, les consignes sont draconiennes, hein, c'est sûr. Une fois par mois, il faut aller chez le luthier pour un contrôle technique. Les assureurs demandent aussi, écoutez bien, de ne pas toucher l'instrument avec les mains pour ne pas attaquer le vernis avec l'acidité de la peau. Donc, il faut toujours prendre un petit chiffon dès que vous voulez l'attraper. Ouais. Et il y a même un film plastique à l'endroit où le musicien pose sa main en jouant cet alto. Mais bon, Antoine Tamestit dit qu'il s'y est parfaitement fait, et finalement c'est en voyage que c'est le plus compliqué.
L'avion c'est le plus facile parce qu'on a des boîtes maintenant qui sont très très bien faites, qui sont très solides déjà, l'alto repose pas sur la boîte directement, il est sur un système de coussin, donc vraiment il n'y a aucun problème.
Il voyage en soute ?
Il voyage, non, il voyage avec nous au-dessus, et puis ce qui est bien dans un avion c'est que personne ne peut sortir avec, donc on peut s'endormir. Ce qui n'est pas le cas dans le train. Donc ça a un peu changé mon sommeil dans les trains. Je peux pas le laisser dans les chambres d'hôtel, dans des voitures, dans une salle qui n'est pas fermée.
Et alors Charlotte, vous avez été très chanceuse parce que vous avez pu aller chez Antoine Tamestit et devant vous, il a joué ce Stradivarius.
Et oui, je l'ai eu devant les yeux, je peux vous assurer que c'est très très impressionnant. Alors il voulait notamment vous faire entendre des petits extraits de son dernier album, Harold en Italie, de Berlioz.
Avec plaisir.
C'est une œuvre romantique très originale pour l'époque. Voilà le début, sans orchestre donc bien sûr, puisque nous sommes dans le salon de l'altiste. Ça sonne chaud, fort, c'est lyrique. Et dans cette même œuvre de Berlioz, il y a aussi un moment incroyable dans le deuxième mouvement qu'Antoine Tamestit m'a joué également. Écoutez bien.
Incroyable ça, on dirait que ça sort d'un ordinateur ce son. Ça date, ce violon, cet alto de 1672, j'en reviens pas.
La magie de Stradivarius et de Berlioz mélangée. Ah ouais. En fait, techniquement, l'altiste joue près du chevalet. C'est cette petite pièce de bois où reposent les cordes de l'alto, exactement comme sur un violon. Et ça dévoile toutes les harmoniques, tous les sons qui entourent et qui résonnent autour d'une note réelle.
Ah d'accord, donc on a tout compris grâce à vous sur l'alto. Il est en concert bientôt, Antoine Tamestit.
Il a même un mois de janvier très chargé, ça vaut mieux parce que c'est vraiment un artiste qui mérite qu'on s'intéresse à lui. 13 janvier à Toulouse, 15 janvier au Théâtre des Champs-Élysées, 17 à Avignon et puis le 5 mars aussi à Nancy.
Voilà, et ce matin sur RTL, vous pourrez dire que vous avez entendu jouer d'un instrument qui date de 1672. C'est assez émouvant. Merci beaucoup Charlotte. Isabelle Morini-Bosse, vous nous accordez la dernière audience de la semaine.
Tiens, les audiences, volontiers. Alors, 7000 c'est un peu ma mission en même temps. 7 millions pour Julie Lescaut et 26% du public. Elle est donc largement en tête. En deuxième position, Envoyé spécial, 3,4 millions et 13% des téléspectateurs. Et en troisième position, Elise Moon et ses amis, 2,6 millions. Et il atteint le seuil des 10%. Et c'est NT qui arrive en tête de la TNT.
Alors, pour ce soir, bien, face aux 500 choristes qui sont sur la une, vous nous proposez le polar de la 2, cet hiver rouge. C'est bien ça?
Écoutez, c'est poisseux, mais c'est réussi. Et c'est normal, vu que, comme on le dit toujours, jour, c'est le poulet du jour du poisson. Le thème, un commissaire désabusé, Patrick Chesnay, vit seul auprès de sa femme handicapée, Jane Birkin, depuis un accident de voiture, le fils ayant disparu en Inde après avoir été rejeté par le père. C'est dire si leur Noël est tristouné, et il va l'être davantage encore quand on découvre une main ensanglantée de jeune fille dans le sapin de Noël de l'église. Tout se passe entre le 25 et le 31 décembre. Le procureur étant persuadé qu'il s'agit du troisième meurtre d'un tueur en série qui a déjà égorgé deux étudiantes, il impose au commissaire une profileuse formée aux États-Unis et ça, le commissaire, ça ne lui plaît pas du tout.
Qu'est-ce que vous foutez là-bas?
Alors
attendez, écoutez-moi bien, parce que je ne vais pas vous le répéter deux fois, commandant. Hein, on ne fait pas cavalier seul. Les flics, c'est comme les témoins de Jéhovah, ils sont toujours par deux. D'accord? Alors si vous n'êtes pas d'accord, vous retournez aux States.
Voilà, détail d'important, cette fliquette équilibrée le jour se livre à des jeux érotiques la nuit. L'un dans l'autre, c'est dangereux. Ne loupez pas la dernière image si vous voulez tout comprendre. Allez faire pipi avant. Et écoutez bien les dialogues qui ne sont pas du tout aseptisés. C'est donc à 20h35 sur la 2, c'est pas mal du tout.
Pour demain, samedi, on peut signaler le retour de Sosie, notre Sosie sur TF1.
Oui, vous vous souvenez du principe, des vedettes se font passer pour leur sosie pour mieux piéger des anonymes. Il y a du surprise dedans. J'avoue que moi, ce genre de caméra cachée, ça me met souvent mal à l'aise, mais bon, on rit beaucoup, comme le cas de cette femme qui allant chez un photographe avec sa copine complice de l'équipe, trouve sur le comptoir des photos de son mari marié avec une autre. Je vous assure que très rapidement, personne va être à la noce, le photographe c'est légitimus, donc tout le monde part dans les tours et dans les cintres. C'est bien fait. Mais moi, c'est surtout le cas des Bogdanov qui m'a fait rire. Les deux frères se sont mis à deux pour jouer un seul campagnard, ce qui prouve que les dames ne sont pas physionomistes parce qu'ils ne se ressemblent plus du tout, les Bogdanov. Mais alors, ayant dû renseigner des citadines paumées, il les garde chez lui, chez eux, pour les désenvoûter, elle et la maison. Et dès le début, la piégée se sent mal.
Bon après-midi, monsieur.
Au revoir, on se reverra. C'est sûr.
C'est bizarre.
Ouais, tu trouves pas? On dirait un extraterrestre.
Voilà. Et peu après, elle a une lueur.
C'est pas les deux mecs à galoches bizarres?
Les deux mecs à galoches bizarres.
Ils étaient pas deux à la télé une fois?
Bah si.
Les frères, je sais pas quoi là.
Les frères.
Voilà. Et signalons. Donc ça, je reconnais que c'est extrêmement drôle. Ouais. Et signalons dimanche sur la 3, le retour de Barnaby saison 14. Un Barnaby que vous découvrirez changé, mais on en reparlera plus longuement la semaine prochaine. Mais moi, j'adore tout.
Mais oui, on aime
tu es en
bien
respectant
Barnaby.
L'heure du thé, c'est formidable.
6 ou 7 meurtres.
Very English.
Very British.
Avec la petite musique et la viole de gants.
Ah, ça, c'est. La petite musique qui va bien.
On doit faire là, on doit se dépêcher.
D'accord.
Allez, à tout de suite sur RTL.
RTL Matin. Laissez-vous tenter. Vincent Parisot.
Bon, alors, ce matin, on vous offrait L'Herbier des Fées, ce livre magnifique pour les enfants, hein, publié aux éditions Albin Michel. Il fallait juste répondre à une question, mais alors toute simple, Stéphane de Pasquale.
Bah alors, la question, c'était pour qui travaille notre botaniste russe,
ouais, et
Bogdanovitch
la réponse...
Rasputin.
Et si vous nous avez dit Rasputin ce matin au 32-10, vous recevrez cet herbier des fées et vous allez faire plaisir à vos enfants ou vos petits-enfants. Merci à tous, on est avec Julien Courbet. Bonjour Julien.
Bonjour.